Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri. Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Nampala Kidal ou Tombouctou. La situation sécuritaire du pays ne cesse de se détériorer en à peine une semaine. Que se passe-t-il? Pourquoi ces violences cycliques dans le centre et le nord du pays? Y a-t-il un rapport entre les différents événements? La cité des 333 Saints nous accueille pour ce forum de la presse délocalisée. Vous l'aurez compris, l'actualité hebdomadaire est largement dominée par la situation sécuritaire. Avec nous dans ce studio de la radio Diamana Tombouctou, quatre journalistes, tous de Tombouctou. Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou, bonsoir Yeya. Abdoulaye Traoré dit Adjan de la radio Bouctou, il est l'un des correspondants du studio Tamani, bonsoir.
Bonsoir.
Askia Mahaman de la radio El Farouk, bonsoir monsieur le directeur.
Bonsoir.
Boubacar Djité de la radio Santé Bouctou. Vendredi 22 juillet, je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation. La mise en onde est assurée par Petting Diarra, assisté par nos amis de la radio Diamana Tombouctou. Bienvenue.
Le Grand Dialogue. Tamani.
17 morts et une trentaine de blessés selon les sources officielles. L'attaque de Nampala, à environ 500 km au nord-est de Bamako, doublement revendiquée, a endeuillé la région de Ségou qui a enterré ses morts hier. Un deuil national de 3 jours est décrété et l'état d'urgence prolongé de 10 jours. Comment cela peut-il encore arriver, une attaque d'une telle envergure? Cela signifie-t-il que les terroristes ont encore une grande force de frappe, Yaya Tandida?
Bon. Permettez-moi tout d'abord de saluer le studio Tamani pour cette délocalisation qui permet en tout cas à un bon nombre de journalistes de se retrouver. Nous sommes très fiers quand même que ça se passe ici à Tombouctou. Oui, pour revenir à la question, j'ai dit oui. À un moment donné, nous l'avons bel et bien dit que le terrorisme n'était pas fini, parce que même les Occidentaux qui étaient venus aider le Mali l'avaient dit. Nous avons joué sur la logistique. Ils se sont éparpillés, mais aujourd'hui, ils ont refait la logistique encore avec les mêmes armes de l'armée malienne. Donc, ceci dit, à tout moment, on doit s'attendre quand même à des attaques. C'est ce qui se passe actuellement.
Alors, monsieur le directeur de la radio Al-Farouk, dites-moi, est-ce que cette force de frappe, justement, de ces terroristes aujourd'hui vous inquiète? Est-ce que vous vous attendiez à une attaque d'une telle envergure?
Inquiet? Ben, évidemment qu'on est inquiet. Est-ce qu'on s'y attendait? Oui, quelque part, on s'y attend. Et pourquoi devrions-nous nous attendre à des frappes dans ce genre? C'est peut-être dans la structuration même de ce qui convient d'appeler le mouvement des djihadistes autour de la région de Tombouctou ou dans la région de Tombouctou. Quand vous écoutez un tout petit peu ceux qui vont et qui viennent, c'est toujours un tout petit peu des lots de véhicules qui ont traversé tel marché, qui ont fait telle foire, qui ont fait... Donc, tant que la mouvance...
Nampala est quand même dans la région de Ségou.
Oui, mais toujours est-il qu'aujourd'hui... Administrativement. Mais ce n'est pas parce que Nampala est en dehors de la région de Tombouctou que... Quand vous prenez le Mali de façon générale, surtout sur un tout petit peu les axes de ce côté nord, où délimitons les frontières? Quelles sont les délimitations des frontières et quelles sont les mesures mises pour essayer de faire barrière? C'est un peu là les grandes questions. D'autant plus qu'il n'y a que pratiquement des portes ouvertes sur l'ensemble des intersections qui séparent une région à une autre. Donc, il n'y a pas de porte par laquelle on passe. Il y a un grand vide et ce grand vide est utilisé aujourd'hui de façon rationnelle par les djihadistes. Ça leur permet de quitter la région de Tombouctou pour aller dans la région de Ségou et peut-être même quitter la région de Tombouctou pour aller dans la région de Mopti demain si cela s'avérait un tout petit peu dans le cadre d'une attaque.
Alors, Boubacar Djité, vous êtes de la radio Santé Bouctou, vous êtes également l'un des correspondants du studio Tamani. Cette attaque de Nampala, est-ce que vous vous y attendiez un peu? Que ce soit à Nampala ou même dans d'autres régions, mais est-ce que la taille même de l'attaque, l'envergure de l'attaque vous a surpris?
Parce qu'il l'avait dit, nous y entendons quelque part. Parce que d'autant plus que, il faut le dire, nous vivons au quotidien dans l'insécurité. Au quotidien, permanent dans l'insécurité. Il y a un grand vide. Et à tout moment, ce n'est pas parce que Nampala est à Ségou, dans la région de Ségou. Nampala est proche de Diabalé, Diabalé est proche de Léré. C'est des vides. Ce vide-là, comment le faire pour le combler? Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire, en moins de 2 heures de temps, on peut quitter Nampala pour venir à Léré. Léré, c'est dans la région de Tombouctou. Donc, cette inquiétude, nous vivons avec, et tous les jours. Et nous prions à ce que le bon Dieu fasse quelque chose de meilleur pour nous.
Abdoulaye Traoré Adjan de la radio Boutou, correspondant également du studio Tamani. Alors, cette attaque de Nampala, 17 morts, plus de 30 blessés, est-ce que le bilan n'est pas quand même un peu lourd?
Bien, merci beaucoup. Le bilan est quand même très lourd, ça il faut le reconnaître. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que les terroristes, ils ont les moyens de taper à tout moment et à des moments on ne s'attendait même pas. Donc ils ont vraiment une force de nuisance qui peut faire autant de dégâts. Donc vraiment, pour beaucoup de gens, c'est quand même une surprise de voir 17 morts à une seule attaque. Quand même, c'est vraiment trop. Mais il faut admettre que le terrorisme, ils ont vraiment une grande force de nuisance.
Alors, dites-moi, Yaya Tandina de l'ORTM Tombouctou, nous avons entendu le ministre de la Défense, Yemayibert Koulibaly, dire, je cite, « Nous ferons en sorte que cette attaque terroriste coordonnée qui s'est portée sur les positions en Nampala fasse l'objet d'une réponse appropriée. » Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens, justement, de répondre avec efficience à ce genre d'attaque?
Oui, j'ai vu la journée... J'ai vu le président de la République hier à Ségou, mais ça m'a fait perdre quand même l'espoir. Parce que j'ai vu un président comme si qui était là en face, impuissant, mais qui dénotait de sa détermination à se venger. Alors qu'un véritable guerrier ne doit pas afficher un moral au profil bas. Je crois que là, le président a un peu joué sur son physique. Donc, moi, je crois que militairement, nous n'avons pas les moyens adéquats de riposter tout de suite. Parce que moi, je crois que des gens qui occupent le Ouagadou, pour qui connaît le Ouagadou aujourd'hui, c'est un espace qui lie le Mali à la Mauritanie. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un refuge... Pour beaucoup de mouvements, ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est difficile et de découvrir l'intérieur même du Ouagadou. Alors là, il faut permanemment des drones qui surveillent les mouvements. Alors,
des drones demandent quand même des moyens.
Des moyens, ce qui n'existe pas d'abord pour le Mali.
Est-ce qu'on les a?
Et justement, quand ces drones de reconnaissance aussi voient ces mouvements, il faudrait automatiquement qu'il y ait aussi des avions de frappe. Et si tout ça là, nous n'avons pas cette logistique, je crois que notre riposte, pour le moment, je crois que nous n'avons pas ces moyens-là. Mais avec les partenaires, peut-être que ça peut aller.
Askia Mahaman, on a vu quand même cette double revendication. Il y a eu d'abord le nouveau mouvement Peul qui a revendiqué, l'ANSIPRJ, j'y arrive. Ce nouveau mouvement qui est né il y a pas longtemps du tout, dirigé par Omar El Djana. Et on a vu aussi une revendication de Ansar Dine. Alors, au finish, finalement, qui est à cette attaque? Qui nous a attaqué? Il y a eu une espèce de confusion à ce niveau-là.
Il faut simplement que certains arrêtent de faire de l'usurpation. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, attaquer, tuer 17 personnes, soit un jeu d'enfant dans lequel on tente des revendications, on tente de faire de la récupération, on tente de faire comme si c'était un jeu que d'aller attaquer un camp, tuer 17 personnes. La région de Tombouctou, déjà, comme pour le Mali, est déjà sous le coup du choc des 11 gardes tués à la Rousse. On peut continuer.
Allez-y.
Donc, en fait, d'autant plus qu'on avait déjà cette inquiétude avec ce qui s'était passé à la Rousse il y a quelque temps. Revenir aujourd'hui à ce coup de Nampala avec 17 morts amène les Maliens dans cette logique pour dire, mais alors, que fait notre armée? Après cette question, on va poser la question, que fait l'opération Barkhane au Mali? On nous a dit que l'opération Barkhane était censée lutter contre le terrorisme.
Justement, alors, la France a quand même une très très forte logistique. Ils sont dotés de moyens de très gros moyens.
Non, ce qui est surtout inquiétant pour nous, ce n'est pas que la France a ses moyens, la France dispose de ses moyens, mais quelle est la réponse que la France apporte chaque fois que des gens occupent un espace, tuent des gens pendant 2 heures de temps, s'installent même sur la durée et finissent par partir tout simplement comme s'ils étaient en terrain conquis. Nous, c'est là notre inquiétude. S'il y avait une réponse suffisamment appropriée qui était apportée sur tout de suite une attaque, on aurait commencé à dire au moins les unités Barkhane, par-delà les exercices, par-delà les coups qu'ils donnent au terrorisme, par-delà tout ce qu'ils font dans le cadre de la lutte antiterroriste, nous dirons que les forces Barkhane sont présentes à nos côtés. On n'est pas là, moi je suis pas là à minimiser la présence des forces Barkhane. J'ai dit simplement il faudrait qu'elles soient plus opérationnelles et qu'elles soient plus aptes à apporter des réponses sur les attaques des terroristes. Parce que c'est là la première des missions de Barkhane au Mali et un tout petit peu dans certains pays africains.
Merci. Boubacar Djité de la radio Bouctou. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on apprenne justement à compter sur nous-mêmes tout d'abord? Est-ce qu'il ne faut pas doter l'armée malienne de logistique suffisante et d'hommes capables de gérer ce genre de situation?
Évidemment, M. Diadié, à plusieurs reprises, à plusieurs rencontres, nous l'avons évoqué, la société civile et nous, hommes de médias. L'armée Mali, elle seule, ne peut pas assurer la sécurité de ce pays. C'est à nous, population civile, de relayer l'information aussi. Et regardez, si on essayait de comptabiliser comme Amal l'a fait, il y a eu combien de carnages sur les axes entre Tombouctou et d'autres localités environnantes?
On va en revenir d'ailleurs, on va évoquer la situation sécuritaire dans la région de Tombouctou.
Voilà, donc maintenant, revenons à nos moutons. C'est à elle seule, l'armée, quels qu'en soient les moyens, à elle seule ne peut pas gérer la sécurité. C'est à la population de s'investir encore pour aider ces hommes, ces braves soldats. Parce que l'information est capitale dans la gérance de guerre dans un pays.
Merci,
je me limite là.
Boubacar Traoré de la radio Bouctou, dites-moi, par rapport déjà à la double revendication, on voit deux mouvements, l'un qui est né il n'y a pas longtemps et l'autre en Sardine, qui ont revendiqué cette attaque.
Moi, depuis la première revendication, en fait, j'étais quand même très ébahi de voir est-ce que le premier groupe qui a fait cette revendication a vraiment les moyens vraiment de faire, en tout cas, ce coup. Je me suis dit non, c'est vraiment comme l'a dit Askia, c'est une usurpation. C'est vraiment une manière vraiment de se faire médiatiser. Et je crois qu'il a reçu son coup. Donc cet acte ne peut être posé que soit par en Sardine avec ses alliés qui sont Acmi et autres qui évoluent dans le nord du Mali. Donc la première revendication quand même, je crois que ça ne tient pas debout vraiment.
Merci, on va observer quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Nous allons évoluer sur un autre sujet à présent, c'est ce qui se passe à Kidal actuellement. On a vu le 15 octobre dernier, un pacte d'honneur entre la plateforme et la CMA a mis fin aux tensions entre les deux groupes sur la question d'Anefis. C'est notamment grâce à cette entente que la plateforme a pu entrer dans la ville de Kidal avec armes et bagages sans avoir tiré un coup de feu. Hier, un violent affrontement a opposé les deux protagonistes de cette ville de Kidal avec au milieu ses populations civile terrée chez elle. Alors, Yeya Tandina, Barkhane ou la MINUSMA ne pouvaient pas, depuis le déclenchement de ce combat, imposer un cessez-le-feu, surtout pour la MINUSMA, qui a pour mandat de protéger également les populations civiles.
Oui, sa mission principale, d'ailleurs, c'est s'interposer entre des Maliens. Moi, je crois que depuis l'après-midi, quand il y a eu vers 16h, il y a eu les premiers tirs en ville. Et je crois que dès là, la MINUSMA devrait s'imprégner et puis prendre toutes les dispositions. Parce qu'on a constaté que ça a pris du temps. Il a fallu 30 minutes après que Gatia avait demandé, la plateforme avait demandé un renfort. Ces renforts sont venus. C'est en ce moment que les tirs à l'arme lourde ont commencé. Et là, la situation a beaucoup dégénéré. Finalement, la MINUSMA même ne pouvait rien. Elle était obligée d'intervenir au plan aérien, observer. Elle est devenue donc un caméraman qui était là, qui observe, qui prend des films. Donc, dans des conditions comme ça, on devrait anticiper. Il devrait avoir d'abord une unité d'anticipation dans des situations comme ça. À chaque moment, parce que vous avez un chien, un chat qui se font face, à tout moment, il peut avoir la situation peut dégénérer. Donc, il doit avoir une unité d'anticipation, ce qui n'est pas là, ce qui n'a pas été fait, ou c'est pas encore, c'est toujours par manque de formation, en tout cas, de ces éléments de l'aménagement qui sont sur place à Kidal.
Alors, monsieur le directeur, dites-moi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire justement pour prévenir ça? On a vu, l'aménagement n'a pas imposé un cessez-le-feu entre les protagonistes. Du coup, les populations civiles se sont retrouvées à risque. Il y en a qui ont péri, malheureusement. Et est-ce que l'aménagement n'aurait pas pu imposer depuis hier un cessez-le-feu?
Nous avions comme l'impression que gouverner qui est c'est censé être prévoir, n'est pas le cas de MINUSMA ou de l'ensemble des forces internationales au Mali. On a comme souvent l'impression qu'on laisse une certaine forme de chien-lit s'installer pour après essayer de jouer des pompiers qui soit n'ont pas le matériel adéquat, soit manquent de toutes les façons. Aujourd'hui, quelle que soit l'approche qu'on va avoir par rapport à ce qui s'est passé dans la ville de Kidal, on aura, en plus de l'implication des partis, la responsabilité énormissime des forces internationales sur le terrain, qui auraient pu servir de porte d'interposition, qui auraient pu, de surcroît, en amont, faire en sorte que tout cela ne se passe pas, parce que quand Tandina dit qu'on a un chien, un chat qui se font face, on est certain que ça va dégénérer à un moment donné. Non, c'est pratiquement le lait sur le feu. Ça va cramer et tout le monde savait que ça allait se passer. Signer des accords entre soi, sans pour autant aller en profondeur de ce qui a créé cette situation, c'est toujours amener des gens qui se font face, qui sont toujours prêts à se faire la peau. Kidal, aujourd'hui, reste, que je sache, jusqu'à preuve du contraire, sur le territoire malien, avec ce petit côté, on ne sait pas réellement qui est à mesure de sécuriser Kidal, parce que ce n'est d'autant plus que c'est pas l'armée malienne, c'est soit des unités de la CMA avec la plateforme, soit des individus venant de Gatcha, des militaires qui... Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le Gatcha, c'est uniquement des forces de notre camp? Moi, je pense, Tandina.
Il y a Tandina, oui. Allez-y, réagissez. Le temps de, avant que je ne donne la parole à Boubacar.
Effectivement, je disais qu'une chose est sûre, est-ce qu'il y a en tout cas les fils du tiroir nous ont prouvé leurs limites, qu'ils ne peuvent pas gérer leur localité. Mais je crois que dans des situations comme ça, qu'on soit très clair, des zones comme ça ne peuvent être gérées que par un État. En tout cas, que ce soit Gatcha, que ce soit la CEMA, ils nous ont déshonorés en tant que fils du terroir. Vous ne parvenez pas à vous entendre dans votre propre ville. Et je crois que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra quand même faire l'affaire de Kidal.
Alors, dites-moi, Boubacar Djité, on a vu quand même qu'il y a eu 3 jours de négociations sous l'égide du Premier ministre nigérien à Niamey, avec un compromis trouvé entre la CEMA et la plateforme. L'on dit que cet arrangement, c'était en attendant le déploiement des autorités intérimaires. Mais les deux entités devaient s'engager dans une gestion administrative partagée de la ville de Kidal. Comment est-ce que cela peut être possible dans l'état actuel des choses?
Bon, dans l'état actuel des choses, on l'avait dit quelque part, que quand soit la durée de la ligne, le soleil apparaîtra au sommet du monde blanc. Ça veut dire, on a beau nager dans les mensonges, la vérité fera face. C'est-à-dire, on a beau chasser le naturel, ça revient toujours au galop. Ces deux identités qui se disent protecteurs, sinon protectrices de la localité de Kidal, n'arrivent même pas à gérer leur propre ethnie.
Parce qu'il faut le dire. On va le dire, est-ce que c'est un conflit ethnique? Non, est-ce que ce n'est pas plus pour un partage?
Parce qu'au fond, on n'arrive même pas à comprendre ce qui se passe à Kidal. Il y a les Ifogas et le Imgad, c'est-à-dire le Prosema et le Gatia. C'est les deux mouvements qui sont là-bas, en plus de la force internationale, la MINUSMA, qui est censée de protéger les civils et leurs biens.
Je le rappelle, ce conflit a opposé le Gatia au HCIA principalement.
Ah, au Gatia et au HCIA, au Conseil de l'unicité pour l'Azawad. Donc,
je vous redonne la parole tout à l'heure.
Mm-hmm. Donc maintenant, si on essaie de voir deux au départ au Niger, il y a Guy Soroche qui ne se sont pas compris sur ça. Il y a un point sur lequel ils ne se sont pas compris. Si on revoit les internautes, les cris des internautes, ça veut dire que c'est un fait prémédité depuis. Gamou était au portail de Kidal. Et ceux qui se disent maîtres, qui sont à CIA de Kidal interdisaient l'arrivée de Gatia dans la localité de Kidal. Et Gatia est fils du terroir, comme Yahya l'avait dit, autant que c'est à CIA. Donc, on ne peut pas me chasser de chez moi. On doit avoir un terrain d'entente pour mieux gérer la localité, pour vivre en paix. D'accord. Ils sont condamnés de vivre en paix, ensemble, parce qu'ils sont tous du même terroir.
Justement, condamnés à vivre ensemble. Mais Boubacar Traoré de la radio Bouctou, de la radio Bouctou, mais il n'arrive pas à s'entendre. On l'a vu où ça a mené. Pourtant, il y a eu cette entente d'Anéfis qui, jusqu'ici, avait conduit les choses tranquillement. Il semblait que les différents mouvements, depuis l'entente d'Anéfis, arrivaient à se concorder. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain?
Bien, en fait, c'était des ententes tacites. En réalité, c'est des mots sur le français. Mais en réalité, ce qui se passe sur le terrain, c'est autre chose. Vous savez, aujourd'hui, le Mali, la crise du Mali est gérée par la communauté internationale. Ce problème, tout le monde l'a senti à Kidal. Donc, c'était quand même une tension qui était là. Mais personne n'a levé le petit doigt pour faire quelque chose. Ne serait-ce que l'aménagement ou Barkhane, qui sont là comme des forces d'interposition pour empêcher vraiment aux belligérants de s'affronter. Donc, ça fait quelques jours, beaucoup de temps, qu'il y avait en tout cas cette tension. Et ces deux groupes sont partis jusqu'au Niger pour gérer cette crise. Mais ils sont partis au Niger. Mais est-ce qu'ils sont partis avec... un délégué de l'aménagement, un délégué de l'Algérie, parce qu'il faudrait que ça soit dans la logique des accords d'Alger.
Alors, avant d'en arriver d'ailleurs à.
Bon, je voulais juste mettre.
Délégué, avant d'arriver à un délégué du Niger ou un délégué de l'aménagement, vous dites un délégué de l'Algérie. Est-ce qu'il n'aurait pas pu simplement venir s'entendre sous l'égide du gouvernement à Bamako?
Oui, il pouvait le faire. Il pouvait le faire. Donc, il n'avait pas besoin d'aller jusqu'à Niamey. Il n'avait pas besoin de ça en réalité. Mais seulement c'est parce qu'il n'y a pas de franc-jeu dans ce qui se passe à Kidal. Et ce que les gens ne veulent pas dire, en réalité, c'est vraiment un problème ethnique qui se pose aux gens de Kidal aujourd'hui. Il y a les Imgad et les Ifogas. Donc ils n'arrivent pas à s'entendre sur la gestion du pouvoir à Kidal. Sinon, c'est notre autre que ça. C'est les intérêts entre ethniques qui est vraiment le nerf de la guerre en ce moment à Kidal. C'est ce qui pose tous ces problèmes à Kidal présentement.
D'accord. Yeye Tandina, vous souhaitiez réagir, mais c'est le seum. Allez-y.
Oui, c'est justement par rapport à l'unité HCIA qui est une des composantes quand même de la CEMA, il faut le reconnaître. Parce que aujourd'hui, d'accord, si certains disent que c'est HCIA face à Gatia, mais ce n'est pas ça. En réalité, c'est la CEMA qui était en face, en réalité, de la plateforme. Que ça se passe comme ça, ça c'est un. Ensuite, juste par rapport à la rencontre du Niger, je voulais quand même rappeler les uns aux autres que c'est sur initiative du gouvernement malien. Parce que là, le Mali était en mauvaise posture de pouvoir faire rencontrer les deux. C'est pourquoi on a demandé au Niger. Bon, c'était vraiment diplomatique, ça ne pouvait pas passer comme ça. Mais le Mali a demandé au Niger en ce moment de tout faire pour rencontrer ces deux protagonistes afin qu'ils puissent trouver une issue par rapport à la question de la gestion de Kidal.
Alors, il y a quand même eu une entente à Niamey.
Il y a eu une entente, effectivement. Je crois que vous avez lu la déclaration du gouvernement malien aujourd'hui. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé, on devrait quand même respecter quand même ces accords-là. Et ensuite, on a vu également... Pour le moment, c'est Niamey qui n'a pas fait une déclaration pour condamner ce qui s'est passé. Voilà, c'est ce qu'on attend.
Alors, monsieur le directeur, je reviens vers vous justement pour vous poser la question suivante. Est-ce qu'il y a un intérêt économique qui entre en jeu pour la ville de Kidal? Parce qu'on voit les différents protagonistes s'affronter. Il n'y a que des rumeurs qui nous disent le pourquoi. On n'est pas certain de justement ce qui s'est passé. Est-ce que Kidal n'est pas suffisamment... Toute la région de Kidal, est-ce que Kidal n'est pas suffisamment grand pour pouvoir être co-géré par justement les fils du terroir?
La grande question, c'est...
qui ont d'antan vécu ensemble pendant des siècles.
Oui, mais qui doit contrôler Kidal? À partir du moment où l'État, le gouvernement malien lui-même qui est censé, Yaya Tandina l'a noté tout de suite, on ne peut pas continuer à essayer de faire du pilotage à vue comme ça, à des groupes armés, parce que c'est des enfants du terroir. Les enfants du terroir, c'est partout dans ce pays.
que vous partez à 100, vous trouverez des enfants du terroir. Mais c'est pour autant, ils gèrent pas 100. Vous venez à Tombouctou, nous sommes là, nous sommes gérés par d'autres personnes. C'est pas les enfants de Tombouctou, natifs, natal de Tombouctou qui gèrent Tombouctou. Si on prend une seule entité, on lui donne cette configuration avec cette possibilité de s'auto-gérer, on crée automatiquement des problèmes. Si Yaya nous renvoie, Monsieur Guité nous renvoie aux accords d'Alger, c'est pour dire simplement que dans la sémantique de vision, le Mali est en train de perdre pied sur le contrôle, la gestion de Kidal. Maintenant, est-ce que cela a des enjeux économiques? Est-ce que cela a d'autres enjeux?
Alors, est-ce qu'il y a des enjeux économiques pour, évidemment, pour ces différents groupes-là?
Évidemment, qui contrôle Kidal contrôle pratiquement le système économique et contrôle de façon administrativement et économiquement Kidal. Ça, c'est de toute façon, cela ne se pose même pas comme question. Simplement dire que le mieux, c'est peut-être que tout le monde s'entarde, que tout le monde accorde son violon pour que on puisse le faire de façon collégiale. Ce serait ce qui est indiqué. Mais quand on arrive à des schémas comme ça où, dès qu'on n'est pas d'accord, chacun sort ses armes lourdes et on se tape dessus, je doute fort que demain puisse présager d'une autre forme de gestion autre que militaire pour la région de Kidal.
Alors dites-moi, Boubacar Diteye, elle est où la place de l'État dans tout ça?
Et la place de l'État dans tout ce processus-là.
On voit deux groupes s'affronter. Bon. Où est-ce qu'elle est la place de l'État?
C'est ça, vous allez me ramener jusqu'à la libération du pays. Si vous me demandez
très rapidement,
si vous me demandez la place de l'État, du moment où nous, Tomboksiens, on a été libérés, Gao a été libéré, mais Kidal, attendons un peu. C'est le même terroir, c'est le même pays, c'est le même nord.
Donc vous pensez que le problème a commencé depuis ce moment?
Depuis ce moment. On devait être libéré au même moment et Mali allait imposer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est peine perdue maintenant. Parce que quand on négocie face à des en position de faiblesse, on est obligé. Maintenant, on fait recours à l'accord qui favorise certains, qui défavorise certains. Et l'État, c'est un pays, c'est pas un mouvement. L'État est obligé de rester dans le cadre de la logique des choses, qui est l'accord d'Alger. Vous comprenez?
Parfaitement. Okay. Alors, Abdoulaye Traoré dit Adjan, une déclaration des Nations Unies a exhorté les belligérants au cessez-le-feu immédiat. Mais il y a quand même une tension très vive, même si on dit que le Gatia a quitté. On a entendu tout à l'heure Almou Ag Mohamed, porte-parole du SEIA, que le Gatia a quitté la ville et ses environs, mais ils s'attendent encore à des représailles. Comment pouvoir justement parler d'autorité intérimaire, d'application de l'accord, de DDR, etc., avec cette situation-là, puisque les autorités intérimaires doivent avoir un représentant de chaque parti et de l'État.
Ok, donc l'autorité intérimaire, je crois que ça fait partie des accords. Donc, si on doit mettre les accords, si on doit vraiment mettre les accords en application, il faut qu'on aille aux autorités intérimaires. Si réellement ça peut nous amener la paix. Je crois que aujourd'hui nous sommes condamnés à suivre l'application des accords d'Alger. Le fait que l'ONU a condamné, à mon avis, ne résout pas le problème. Parce que qui connaît le tempérament des IMGAD, des IFOGAS, forcément on sait que le problème n'est pas terminé. La tension va toujours demeurer. Surtout quand tu vois aujourd'hui le Gatia qui a déjà commencé à accuser le gouvernement de Bamako, le gouvernement central, pour dire que tout ce qui se passe, c'est l'État qui a soutenu la CEMA contre le Gatia. Donc vous avez vu, déjà là, il y a une tension qui est en train de remonter encore. Donc moi je crois que vraiment condamner, ça ne suffit pas. Il faut que vraiment les Nations Unies, qui aujourd'hui ont les moyens, avec l'aménagement Barkhane, qu'ils essaient vraiment de résoudre le problème de Kidal. Il faudrait vraiment que Kidal, d'ailleurs, soit sous l'autorité du Mali, que ce soit vraiment comme Tombouctou et Gao. Comme Gité l'a dit, depuis au moment de la libération, Kidal devait être aussi libéré au même titre.
Alors, Yaya Tandina, aujourd'hui, quel est le sort de ces pauvres populations civiles? Est-ce que vous en savez quelque chose à Kidal?
Ce qui est sûr, il y a eu beaucoup de civils qui ont été tués. Ils ont été, au cours des événements d'hier, ça, il ne faut pas se le cacher. Certains, quand même, ont eu la chance d'être protégés par la MINUSMA. Mais par contre, certains ont été surpris quand même par l'événement et puis il y a eu des pertes en vie civile. Mais je voudrais quand même revenir sur un aspect. Il s'agit juste de la question de déclaration, comme on disait, par rapport à la situation actuelle. C'est vrai, on a vu, quand le Gatcha était en position de reconquérir tout Kidal, effectivement, la CEMA avait fait une déclaration demandant au gouvernement malien et à la communauté internationale d'intervenir. Donc c'est l'occasion. Je crois que l'appel a été entendu, si tout le monde a fait des déclarations. Mais la question n'est pas là. Nous devrons rester dans cette dynamique pour qu'il n'y ait plus d'affrontement. Maintenant, quelle est la gestion qu'on appelle les protagonistes à la négociation, qu'on se retrouve sur la même table, ça vaut mieux. Sinon, encore, les civils vont payer encore lourd tribut. Et ce n'est pas fini.
Je vais vous interrompre juste quelques moments, le temps d'observer une courte pause et nous reviendrons.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Yaya Tandina était sur une lancée. On va vous laisser continuer très rapidement avant d'aborder le dernier chapitre de cette émission.
Donc, je disais que ces affrontements, d'ailleurs, n'est qu'un recul encore dans le processus de mise en œuvre des accords et sinon même l'entente, parce que nous devrons, dès la semaine prochaine, entamer la mise en place des autorités intérimaires. Tout est fauché, les DDR. Aujourd'hui, tout le programme sera fauché parce que le nerf de la crise au Mali, c'est bien Kidal. Et tant que le cas Kidal n'est pas géré, nous allons tous perdurer encore dans la crise. C'est ce qui se passe. Et ça peut répercuter encore sur Gao, Tombouctou, qui vivent un peu de quiétude. Hein, mais ça peut répercuter sur nous. Et c'est ce qui est. Moi, en réalité, c'est toute mon inquiétude.
Parlons à présent de la situation sécuritaire de la région de Tombouctou. Tombouctou, où il est difficile de se déplacer dans l'ensemble de la région. Tombouctou, qui est proie à un banditisme résiduel et une confusion sécuritaire accrue. Trop d'hommes en armes, les différents groupes armés ont tous leurs hommes sur le terrain, sans compter les éléments incontrôlés et les djihadistes toujours actifs dans cette région. Monsieur le directeur Askia Mahaman de la radio El Farouk, pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes sécuritaires dans la région de Tombouctou?
Le problème de Tombouctou, c'est d'abord pouvoir bouger, ne serait-ce que se mouvoir à l'intérieur même de la ville de Tombouctou. Vous savez, pour nous, la sécurité, sinon l'insécurité commence à partir de notre ère d'existence directe. Nous, il nous est impossible aujourd'hui de quitter à cette heure, au moment où nous sommes en train de parler, pour aller à Kabara, qui n'est qu'un quartier de Tombouctou. Donc ce n'est pas aller à Goundam, dire il n'y a faim que non, c'est déjà compliqué pour nous. Nous, nous sommes dans une ville-prison. Et cela depuis la libération jusqu'à ce jour.
Comment expliquer justement cette situation?
Cela part du fait que nous sommes pratiquement sur une zone où il y a trop d'ouverture. Les espaces sont largement trop ouverts et l'État et le système international, pour essayer de prendre des mesures à sécuriser tout le monde, l'État et le système international ont mis trop de systèmes de sécurité, trop de checkpoints, trop, disons, qui nous permettent peut-être de rester dans cette ville ou de continuer à vivre dans cette ville, mais ils représentent également un handicap terrible à notre comment nous déplacer dans notre quotidien et joindre les autres. Maintenant, sur l'ensemble de la région, si nous prenons un tout petit peu l'axe Goundam Tombouctou, qui est l'axe majeur de banditisme résiduel, d'attaque permanente,
cela veut dire qui sont ces gens qui attaquent? Est-ce que ce sont des djihadistes? Est-ce que ce sont
vous savez, les djihadistes n'attaquent pas les civils simplement pour le plaisir de récupérer quelques bagages, quelques produits, quelques vieilles voitures qui sont sur le tronçon. Non, c'est des bandits armés qui partent pratiquement de partout, de nous, des autres, comme on dit. Il y a combien de groupes armés autour de la ville de Tombouctou? Vous l'avez dit dans votre question, tout le monde détient une arme dans cet espace. Les groupes de la plateforme, les groupes de la CEMA, les groupes de X, les groupes de Y, nous sommes dans un environnement où les armes sont devenues pratiquement des petits pains, commercialisés pratiquement sous des boubous. Mais chacun détient une arme dans cet environnement. Donc il n'est pas très aisé de dire que tout le monde est bandit dans cet environnement, mais pratiquement les bandits empêchent tout le monde de fonctionner dans cet environnement.
Boubacar Djité de la radio Santé Bouctou. Alors, vous l'avez entendu tout à l'heure, le directeur l'a dit, il est difficile de se rendre à Kabara qui est à un kilomètre de Tombouctou.
Un quartier de Tombouctou, comment plus précisément 7 kilomètres de Tombouctou. Bon, il n'y a pas d'autre explication. Tout le monde sait qu'à partir de 18h, c'est-à-dire les gens qui vivent à Kabara même se demandent est-ce qu'ils font partie de Tombouctou d'abord. Parce qu'ils sont limités dans leur mouvement. Par exemple, s'il y a une urgence, quelqu'un qui vit à Kabara, il a une urgence ici. Comment il peut le gérer? Il ne peut pas. À 18h, il ne peut pas passer. À 18h, on ne peut pas aller à Gundam. Il y a trop de checkpoints sur les routes. C'est pour nous sécuriser. Mais cette sécurité reste toujours précaire.
Alors justement, dites-moi, Abdoulaye Traoré, Adjan, dites-moi, avec quand même, on a les FAMA présents à Tombouctou, il y a les Nations Unies qui ont cédé leurs troupes à Tombouctou, il y a Barkhane à Tombouctou, et on ne peut même pas aller à Gundam à partir de 18h. Comment expliquer cela?
Bon, en fait, c'est à ça qu'on cherche des explications à chaque fois, mais on n'arrive pas vraiment à trouver vraiment une explication à ça. Ça ne peut même pas se comprendre là où il y a les FAMA. En fait, surtout, c'est vraiment une route très stratégique. On doit vraiment maîtriser. Donc, les FAMA doivent vraiment avoir un poste militaire très consistant sur cette route. Et aussi, il y a ce qu'il faut aussi souligner, c'est-à-dire que les FAMA ne sortent pas trop pour faire des patrouilles. Et ça aussi, je crois que quelque part, c'est lié aussi aux accords où on demande à chaque groupe, à chaque armée vraiment de rester sur sa position initiale. Donc, ils ont toujours, en tout cas, cette porte de sortie pour donner une explication. Mais nous, on ne peut pas le comprendre. Je crois que notre territoire, c'est notre territoire. Et l'armée doit régulièrement faire des patrouilles pour empêcher vraiment aux bandits vraiment de s'approcher quand même des routes que tout le monde utilise. Et pour ravitailler Tombouctou, à un moment, c'était quand même, c'est un problème. Quitter Bamako pour ravitailler Tombouctou, les commerçants avaient énormément de problèmes. Parce qu'à chaque fois, leurs véhicules sont braqués, on prend leurs marchandises, que ce soit sur la route de Gundam, que ce soit sur la route de Douanza. Donc, vous voyez, si l'armée faisait régulièrement des patrouilles, je crois que vraiment, ça allait vraiment diminuer la peine quand même des populations.
Djité, je vous redonne la parole dans une seconde, le temps de faire réagir Yaya Tandina. Moi, je suis régulièrement ces postes sur les réseaux sociaux, sur la situation sécuritaire, Yaya Tandina. Bon, est-ce que vous pensez que... Moi, j'ai vu quand même des véhicules du MOC circuler dans la ville de Tombouctou. Est-ce qu'il est opérationnel, le MOC, ici, déjà?
Ça, c'est, il n'y a que le seul véhicule de commandement. Pour le moment, les autres véhicules ne sont pas là. Tombouctou devrait disposer de 70 véhicules qui ne sont pas encore arrivés.
Non, mais est-ce que les forces travaillent ensemble?
Bon, il y a des initiatives qui sont mises en œuvre. La mise en eau
plateforme CMA,
concertation, ça se passe régulièrement quand même. Le MOC a beaucoup d'initiatives, mais n'a pas les moyens. Donc, on se limite à ça. Mais pour revenir sur la question de Gundam, moi, je voudrais quand même... Je ne partage pas la même vision que mes confrères sur la question de Gundam. Il a dit qu'il y a des patrouilles de routine. La preuve, la dernière attaque contre l'armée malienne qui a fait les 4 morts est une patrouille de routine qui était là, qui partait, qui revenait. Et c'est des bandits qui les ont attaqués, ce n'est pas des djihadistes. La preuve, le monsieur qu'on a pris, je vais faire économie sur son nom, c'était le chef des gangs.
Allez-y, hein, vous pouvez le citer.
Bon, non, de toutes les façons, on le connaît déjà, et il a été arrêté, il a dénoncé certains de ses camarades.
Pour nos auditeurs.
Il a reconnu qu'il est lui qui a dirigé l'attaque contre l'armée malienne pour avoir tué les 4. Donc ça, c'est une version. Ensuite, vous avez vu, l'armée malienne a perdu au moins plus de 40 éléments pour seulement la liaison entre Tombouctou et Gundam pour faire le goudron. Mais je crois qu'aujourd'hui, le rêve est réalisé du moment où le goudron est fait, mais quand même avec beaucoup de sacrifices. Rien que pour ça, nous devons quand même saluer l'engagement, la détermination des militaires. Et en plus, si vous prenez tous ces checkpoints, c'est des militaires qui se sont donnés, qui disent que voilà, au lieu de tuer un civil, tue-moi d'abord. Donc, c'est des sacrifices. Moi, je crois que sur ce plan, attention, j'ai dit la sécurité.
Je n'appelle pas sacrifice.
La sécurité nécessite.
Non, c'est pas de sacrifice, c'est leur mission. Ils sont en mission.
Oui.
Et c'est vraiment leur mission de faire ça, cela.
Non, nous avons vu au Nigeria des bataillons entiers démissionner, carrément quitter. Mais on n'a pas eu le cas quand même avec la crise malienne. Pour le moment, jusque-là, on ne l'a pas vu. Donc j'ai dit pour le moment, pour maintenir l'équilibre, nous devrons toujours continuer à reconnaître quand même ces efforts fournis, malgré les moyens très limités. Souvent, vous voyez, c'est des militaires qui sont sans gilet pare-balles, sans casque. Souvent, même il n'y a même pas de cartoucheur secours. Tu finis... je m'excuse, sinon c'est déjà donné le secret à l'ennemi. Demain de l'attaquer, dire qu'il va finir sa première coup.
Absolument pas. Askia, Mahaman de la radio.
Moi, je voulais simplement...
Al-Farouk, est-ce que vous pensez que le DDR, par exemple, si on a des espaces, déjà, si le DDR est actif sur le terrain, ça permettrait de calmer un peu le jeu?
Moi, je pense qu'une fois qu'on aura démobilisé, désarmé le maximum d'hommes, on aura au moins un semblant de quiétude sur cet espace où j'avais dit tantôt qu'il y avait suffisamment trop d'armes. C'est ça également la visée du DDR. Mais vous avez posé une question par rapport au MOC. Le MOC, il n'est pas opérationnel. Yaya Tandina, il vous dit, bon, on a un véhicule de liaison. D'accord, merci. je m'adresse à Yaya au lieu de m'adresser au MOC. Donc, il serait important que le mécanisme il bénéficie des moyens pour pouvoir travailler, pour que nous puissions aller et venir. Désarmer, démobiliser, ça reste dans la politique des papiers. Nous, on n'a rien vu. On a vu des gens qui sont venus dire qu'ils sont venus lancer le MOC ici. Il y a un véhicule de commandement qui tourne pour pratiquement toute la région. Il y a peut-être un certain nombre de véhicules stationnés à Gao. On nous dit qu'il y a plein de véhicules qui doivent arriver. Mais on ne fait pas la sécurité avec des promesses. La promesse, c'est des engagements fermes et des actes posés. C'est ce qui fait la sécurité. Quand Tandina, il dit, il y a 40 militaires qui sont tombés pour faire 100 km de goudron. Mais imaginez le sacrifice. Adjan, c'est un sacrifice, c'est un grand sacrifice, parce que nous sommes un pays où derrière chaque militaire qui tombe, il n'y a pas qu'une femme et un enfant, il y a une mère, il y a toute une famille. Il faut commencer à comprendre le problème comme ça. Quand on perd 17 soldats pratiquement à Nampala, je m'excuse de revenir sur ce chiffre, c'est qu'on a perdu 17 multipliés par 10 en termes de personnes choquées qui subissent de plein fouet la part de 17 militaires. Donc il va falloir que la communauté internationale, que le Mali lui-même à travers le président de la République, il n'a pas voulu trop secouer, il va falloir qu'on ait un président beaucoup plus debout, beaucoup plus arrêté pour faire face et dire je ne suis pas d'accord. Pas que je viens simplement parce qu'il y a ce sujet, je baisse la tête, je dis alhamdoulilah, on peut toujours gagner. On ne gagnera pas le combat en baissant la tête ou en disant aux djihadistes, nous sommes un pays, on va trouver les moyens, il faut qu'on ait les moyens de le faire.
Alors, dites-moi, Boubacar Djité de la radio Saint-Tembouctou, est-ce que Tombouctou ville, est-ce qu'on va dire la commune urbaine de Tombouctou est épargnée? Moi, je me souviens qu'il y a eu une attaque sur les troupes de la police nigérienne à l'entrée de la ville il y a quelques mois. Je me souviens qu'un officier, d'ailleurs, a perdu la vie, un officier malien a perdu la vie au cours de cette attaque-là. Alors, comment, est-ce que la commune urbaine de Tombouctou est épargnée aujourd'hui?
Comme vous-même vous l'avez dit, la commune urbaine de Tombouctou n'est pas épargnée, évidemment. Prenons le cas du 22 juin 2016, au checkpoint sur la route de Taudani. Yaya est mort, de blessés. C'est un checkpoint pour sécuriser la ville. Yaya, combien d'attaques au niveau des de checkpoints sur la route?
Alors, très rapidement, sur la même question, Abdoulaye Traoré.
En plein centre-ville, allez-y. Le 4 mai 2016, un bandit a tenté d'enlever un véhicule en plein centre-ville, en plein jour. Ça veut dire qu'il est audacieux. Il est audacieux, mais parce qu'il joue de l'insécurité qui existe dans l'intérieur de la ville. Le FAMA font de l'ermier, mais la population aussi n'a qu'à essayer de coordonner avec les formats.
Abdoulaye Traoré, Adjan, très très rapidement.
Bien, en fait, je voudrais un peu revenir sur le mot sacrifice que j'avais
très, dit. Très très rapidement, il nous reste.
Quand je dis c'est pas un sacrifice, il faut d'abord reconnaître qu'ils sont en mission. Les sacrifices, c'est lorsque on s'engage, on a opté pour être militaire, pour être soldat à défendre sa patrie. Là, je peux l'appeler un sacrifice, mais lorsqu'on est en mission, on est en mission. Et un militaire qui tombe, ça affecte tous les Maliens. Nous sommes tout le temps, tous les Maliens sont derrière les FAMA, on les a toujours soutenus et on continue à les soutenir.
Merci, ceci est compris. C'est la fin de ce forum de la presse délocalisée dans la 6e région. Merci de l'avoir suivi. Ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous. Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou, Abdoulaye Traoré, adjoint de la radio Bouctou, correspondant du studio Tamani, Askia Mahaman de la radio Alfarou, Boubacar Djité de la radio Santé Bouctou, également correspondant du studio Tamani. Merci messieurs. Retrouvez cette émission sur notre site web www.studiotamani.org. Je suis Ousmane Diadié Touré à la présentation. Petin Diarra a assuré la mise en onde avec nos amis de la radio Diamana. Un grand merci à Bekaï Sissé pour son appui technique. Alkia Touré a réalisé cette émission et toute cette équipe est sous la coordination de Moussoukoura Konaté. Merci.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halo Dumondi.
Chenne.